Une vie, une œuvre. Bonjour à toutes et à tous. Niki de Saint-Phal, 1930-2002. Aujourd'hui, Une vie, une œuvre vous invite à tirer à la carabine, à tirer les tarots, à rire, à dormir dans le sein d'une impératrice et à bâtir une cathédrale en Toscane, à la rencontre d'une artiste blessée, indomptable et farouche, fragile et folle, militante et révoltée, l'auteur des monumentales Nana, du film Daddy, du Golem de Jérusalem et de La Fontaine Stravinsky. Niki de Saint-Phal, un documentaire de Dominique Missica et Ghislaine David.
Moi, je m'appelle Niki de Saint-Phal et je fais des sculptures monumentales.
Je suis Jean Tinguely et je fais des machines qui ne servent à rien.
Cette jeune femme s'appelle Niki de Saint-Phal. Elle appartient à une famille de grands banquiers et a été élevée dans un couvent de New York. Non loin de Montparnasse, elle fait de la peinture à la carabine. Ces bas-reliefs de plâtre renferment différents objets, des œufs, des tomates, des capsules de shampoing, des flacons d'encre, des tubes de couleur. Ils éclatent sous le choc de la balle et des taches de couleur apparaissent à la surface du plâtre. L'artiste arrête le tir lorsqu'elle estime que les transformations obtenues sont belles. Ces transformations vont parfois d'ailleurs jusqu'à la destruction. Tout le monde peut participer à l'opération. Le tireur, qui est souvent l'acheteur, est le seul juge du résultat. Niki de Saint-Phal s'est manifestée au salon Comparaison à Paris. Ses œuvres, éclatées et éclatantes, sont exposées actuellement au musée de Stockholm. Elles le seront au début du mois de juillet dans la nouvelle galerie expérimentale de la rive gauche, la galerie Givre.
Niki de Saint-Phal, 1930-2002. Une émission de Dominique Missica et Ghislaine David.
Je suis née d'une famille française aristocratique. Mon grand-père avait un château dans la Nièvre. Il avait 7 enfants. Il était polytechnicien. Il avait un château et 7 fils. Il croyait que c'était la fin de l'aristocratie française. Il croyait beaucoup en l'Amérique. Et mon père, mon oncle Alexandre, mon oncle Claude, Phal de Saint-Phal, ils sont tous allés à New York. Ils ont tous fini par être banquiers. Ils ont très bien réussi. Ils avaient une banque à Paris et à New York. Donc, en 1930, je suis née en France. Je suis allée là-bas en 1933. Les étés, je rentrais et je visitais les châteaux de mes grands-parents. J'étais élevée en tant que Française. On mangeait à la française, on parlait français. Mais, la rue, l'école et tout était New York.
Ben, j'avais 23 ans et demi. Je ne savais... Même pas que je faisais de l'art,
Jean-Pierre Reynaud.
Car c'était presque une thérapie quand j'ai commencé, après l'histoire de l'Algérie, de faire 28 mois d'armée. Et j'ai eu la chance de rencontrer à ce moment-là ces personnes, Niki, Jean, bien sûr, Jean Tinguely et toute l'équipe, hein, Spory et bien d'autres, qui étaient vraiment les personnes pionnières à l'époque en Europe. Et ils avaient cette audace, cette liberté. Et tout de suite, avec Niki, ça a été un coup de foudre artistique et un coup de foudre tout court, parce que c'était une très belle femme. Et on est devenus copains tout de suite. Et Niki a été ce catalyseur, comme ça, d'énergie. C'était aussi la femme. C'était une femme dans ce groupe d'hommes. C'était très agréable aussi. On n'était pas simplement des hommes, un peu comme des militaires, vous voyez, ensemble, ou une équipe de foot. On était une sorte de chose vivante, séduisante. On rêvait, on se projetait. Et dans le fond, c'est tout ce qu'aimait Niki. C'était cette folie. L'idée, c'était de se dire, va jusqu'au bout, montre-moi qui tu es.
Physiquement, elle était très très belle. Elle avait de grands yeux bleus. Elle était toujours très élégante, elle portait beaucoup de chapeaux, elle adorait les chapeaux extravagants et elle se faisait habiller par Christian Dior notamment parce qu'elle avait trouvé un moyen d'échanger des œuvres contre des vêtements et tout le monde la remarquait. D'un côté, elle sortait donc avec Tinguely qui lui adorait jouer les prolétaires et s'habiller en bleu de travail, et Nikki, elle s'habillait en robe de dentelle et en chapeau très extravagant.
Il faut revenir dans les années 60, à une époque où la grande majorité des femmes ne travaillaient pas, c'était quand même un contexte assez difficile. Peu d'artistes femmes, il y en avait mais peu reconnues dans la sphère publique. Donc c'est effectivement une artiste qui va se projeter dans cette scène de manière très volontaire, en assumant le fait d'être une artiste femme. Et c'est une féministe féminine qui est une sorte, je dirais, de courant très européen du féminisme, courant pour lequel elle est pionnière et très représentative, en fait.
J'ai suivi le schéma normal de la personne révoltée, c'est-à-dire contre la famille, après contre l'école, où j'ai eu beaucoup de difficultés, après contre la patrie. Et surtout, j'étais très mal à l'aise dans le milieu dans lequel je suis née. Alors, je me suis toujours trouvée beaucoup plus à l'aise dans la cuisine, avec la cuisinière, que dans le salon. Alors, évidemment, j'ai appris le masque, je sais comment me conduire, je sais comment parler. Donc, ce qui m'a bien servi plus tard, parce que ça peut masquer une certaine timidité vis-à-vis des autres. Mais au fait, là où j'étais à l'aise, c'était dans l'autre partie de la maison. Et très tôt, je me suis devenue conscient, à cause que je me sentais mieux dans la cuisine, des problèmes sociaux. Et aussi, vivant à New York, j'avais une vue sur la rue, sur ce qui se passait, et je voyais ce décalage entre comment mes parents vivaient et comment les autres vivaient. Très vite, c'est des choses qui m'ont angoissée, qui m'ont profondément touchée dès mon enfance.
Un jour, elle expose un de ses tableaux qui comprend une tête en forme de cible.
Catherine Framblin.
Et elle invite les spectateurs à jeter des flèches sur cette tête qui, en fait, représentait l'un de ses amants dont elle voulait se séparer. Et ce portrait de mon amour, sur lequel elle demandait aux spectateurs de tirer, tout d'un coup, elle s'est dit, en voyant un tableau tout blanc dans cette exposition qui était le Salon Comparaison en 1961, elle s'est dit, mais ce tableau tout blanc pourrait saigner, pourrait montrer des écoulements de peinture, de couleurs. Mais dans ce cas-là, les fléchettes ne suffiraient pas. Il fallait une action beaucoup plus puissante, et elle a pensé au fusil. Les tirs en eux-mêmes, ce sont donc des panneaux sur lesquels elle a mis une couche de plâtre, et dans cette couche de plâtre sont cachées des poches de peinture. Et donc lorsqu'on tire à la carabine sur ces poches de peinture sans savoir quelle couleur se trouve à l'intérieur, eh bien la peinture s'écoule et elle ruisselle en une sorte d'arc-en-ciel de couleurs. Et non seulement Nikki tire à la carabine pour créer ses tableaux, mais spectateurs sont invités à tirer. Et Restani, qui connaissait bien l'abstract expressionnisme, qui était le mouvement qui avait eu beaucoup de succès juste quelques temps avant, dans les années 50, notamment avec Jackson Pollock, Restani disait « c'est du dripping au revolver ». Mais en fait, Nikki ne voyait pas tellement ça par rapport à une histoire de l'art. C'était beaucoup pour elle quelque chose qui était libérateur parce qu'il y avait cette espèce de création d'un tableau en même temps qu'une destruction de quelque chose.
C'est arrivé une très drôle histoire. Première exposition de tir chez Jeannine de Goldschmidt en 61. Je crois que c'était 60, je ne me rappelle plus très bien les dates. Il y avait un vieux monsieur qui était venu au vernissage. Et je disais à Jerry, mais qui est cet emmerdeur? Il demandait sans arrêt, mais quand est-ce que je peux tirer? Quand est-ce que je peux tirer? Je dois tirer. Alors, je lui ai dit, écoutez, on n'a pas encore fini de mettre les choses en place. Attendez un peu de patience. Allez boire un coup au café du coin, et puis revenez, puis ça ira mieux. Et puis Jerry m'a dit, non, arrête, sois gentil. Mais c'est foutrier. Et c'était Fautrier, attendait avec une impatience de tirer sur ce tableau. Il est resté là toute la soirée, il voulait juste faire un Fautrier. Et c'était très drôle. Les réactions des artistes vis-à-vis du tir m'ont toujours fascinée.
leur réaction très violente. Il y avait une fois, on était à Stockholm, on a fait un tir. Il y avait Bob Rauschenberg, il y avait Jean Tinguely, il y avait Pontus Hultén, qui est maintenant directeur de Beaubourg. On était là devant un de mes premiers tirs. Je me rappelle Rauschenberg qui criait « Je veux du rouge, où est le rouge ? Où tu as mis le rouge ?» Et finalement, il n'y avait plus de balles. Et alors, il a commencé à prendre des pierres pour lancer sur le tableau. Et Jean s'est tourné, Jean Tinguely dit « Mais après tout, c'est une œuvre d'art. » Tout le monde, comme des garçons qui étaient pris faisant une mauvaise blague, ils ont lâché leur caillou. Mais l'agression, je veux dire, ça déclenchait une agression à travers le jeu.
« Painting is crying. » The painting is dead.
Les tirs sont un moment important parce qu'ils s'inscrivent, je crois, de manière très forte dans une époque qui est une époque de révolte et de provocation. Si Nicky n'avait pas eu cette attitude rebelle et voulant avec les tirs marquer un grand coup, je pense que son œuvre n'aurait pas été remarquée comme elle l'a été. Mais le paradoxe, c'est que ces tirs qui l'ont rendu célèbre dans le monde entier, parce qu'on en a parlé énormément, en fait ont été peu vus pendant des années. Et puis aussi, ils correspondaient à quelque chose de très profond chez Nicky, qui n'était pas simplement l'idée de faire un happening dont tout le monde allait parler, c'était aussi quelque chose qui correspondait à un moment de libération pour elle, très important, parce qu'elle a vécu des choses très difficiles auparavant, et elle avait envie de se libérer, de sortir d'une sorte de carcan.
Shabba, pow, blop.
Elle commence sa carrière artistique en faisant des huiles, d'abord assez classiques, et très vite, à la fin des années 50, elle va faire ce qu'on appelle maintenant des tableaux assemblages, combined paintings.
Camille Morino.
Donc, qui sont des tableaux sur lesquels sont collés des objets, des matériaux comme de la terre, du plâtre, des objets trouvés. Et ces combined paintings, ils se situent vraiment entre la tradition du pop art et le nouveau réalisme. Elle va, dans les années 70, se lancer dans la production de longs métrages, Daddy et Un rêve plus long que la nuit. Et en même temps que son travail de sculpteur, elle développe un travail graphique sous forme de gravure. Et puis, c'est une artiste qui s'est aussi beaucoup intéressée à l'objet édition, l'objet pas cher qui pouvait justement se diffuser, qui s'adressait à tous les publics. C'était une graphomane, elle le disait elle-même. Donc, elle écrivait aussi beaucoup, par exemple, à Tinguely, à certains collectionneurs. Il y a un moment de sa vie à la fin où elle a énormément écrit aussi à des gens de sa famille. Et quand elle n'écrivait pas, elle dessinait. On peut dire à la fois qu'elle n'a pas fait l'école des beaux-arts, mais enfin, quand on regarde en détail, elle a énormément voyagé. Elle allait tous les jours, elle raconte bien qu'en arrivant à Paris, elle allait tous les jours au Louvre. Elle a lu tous les grands auteurs de son époque, elle en connaissait beaucoup, puisqu'elle était mariée à l'époque avec Harry Matthews, qui était très proche de toute l'avant-garde franco-américaine, l'élite philosophique et littéraire franco-américaine. Elle était aussi extrêmement proche des artistes américains, que ce soit Jasper Johns, Rauschenberg. Quand elle commence à faire ses tableaux assemblages à la fin des années 50, c'est une artiste qui est complètement, déjà dans la maturité, elle sait extrêmement bien ce qu'elle fait. Elle se nourrit de ce qu'elle connaît de l'art brut, comme beaucoup d'artistes des années 50, mais c'est une artiste extrêmement informée.
Jean a toujours été un fervent de mes anciennes peintures et sa femme Eva Appley a été très importante pour moi. Il m'encourageait. Jean a connu mes premiers dessins quand j'étais toute jeune, depuis que j'ai vu Gaudi pour les grands monuments, et a toujours été... m'a dit, mais tu peux les faire. Rien, il faut juste attendre un peu. Donc j'avais quand même des gens autour de moi, que ce soit Harry Matthews, que ce soit John Ashbery, que ce soit mon amitié, parce que c'est seulement plus tard que Jean et moi nous sommes mis ensemble, après qu'on était séparés. Et plus tard, à travers le travail, qu'on est tombés amoureux dans l'année 60 et qu'on a commencé à vivre ensemble. Mais on se connaissait déjà depuis longtemps. Mais donc, j'avais des gens autour de moi qui m'ont toujours secondé, malgré que beaucoup de peintres officiels de l'époque, de mes contemporains, étaient contre. On n'aimait pas ce que je faisais. On me disait, va à l'école, tu ne sais pas peindre.
D'où lui vient ce goût et cette envie de monumentalité?
Mais très très tôt, en fait, elle découvre le Parguel de Gaudi en 55. Au moment où elle commence à peindre, donc c'est vraiment, ça coïncide avec sa décision de devenir artiste. Elle y pense dans ces années-là, tout en faisant ses tableaux assemblages. Et elle va mettre en œuvre cette ambition à peu près 10 ans plus tard, au milieu des années 60, où elle va commencer à faire sa première œuvre monumentale architecturale, qui est Le rêve de l'oiseau, qui est un ensemble de 3 petites maisons qu'elle installe dans le Var, dans le sud de la France, qui sont des maisons habitables. Et au fond, ce premier projet correspond déjà à une ambition plus importante chez elle de faire un parc de sculptures, de faire des œuvres très grandes. Elle parle de château, en fait, dès le début des années 60.
Les nanas sont sorties. C'était les premières sculptures que j'ai faites. Je les ai faites avec ma fille. Elles n'étaient pas très grandes. Je faisais avec du grillage, que je collais ces bouts de grillage l'un à côté de l'autre. Après-dessus, pour que ça tienne, je mettais des grands draps. Des fois, je déchirais les draps si je n'avais pas ce qu'il me fallait. Je les trempais dans la colle, de colle de lapin qu'il fallait chauffer. Ça puait, mais moi, ça ne me dérangeait pas. Mais vraiment, c'était les gens qui venaient. Ils disaient que ça les gênait, mais moi, bon, quand on est dans quelque chose, rien ne vous dérange. Ça ne séchait jamais. Alors, à ce moment-là, je n'avais pas de chauffage central. Je ne savais pas comment les sécher. Alors, finalement, je faisais un trou dans les nanas et je mettais l'aspirateur dedans qui propulsait de l'air et je finissais par les sécher. Alors, une fois qu'il y avait la couche avec des petits morceaux de drap trempés dans la colle qui lui donnaient la peau, après venait la décoration, qui était de la laine colorée.
Alors, les nanas, elles ne sont pas forcément lues comme elles devraient l'être. Moi, en me replongeant dans les textes de Nikita Saint-Phalle, dans ses interviews justement à la radio, à la télé, elle explique vraiment que les nanas, c'est des personnages féministes. C'est une armée de femmes, qui sont d'ailleurs souvent plus grandes que nature, qui sont pour certaines enceintes, pas toutes, qui sont en tout cas toujours très dynamiques, certaines sont dansantes, d'autres en maillot de bain, enfin visiblement sportives, assez bien dans leurs baskets. Et ces nanas, elles vont envahir l'espace public, pas seulement l'espace des musées. Donc c'est un geste assez fort de prise en compte de cet espace public qui est un espace masculin, de multiplication du corps féminin dans l'espace artistique aussi, et d'un corps féminin qui est assez nouveau, qui est donc coloré, qui est donc plus grand que nature, qui n'est pas un corps normé par l'esthétique des magazines féminins justement d'époque. Et ça, c'est très très nouveau, et c'est pas forcément comme ça qu'on lit les nanas, on les voit plutôt comme des œuvres pas joyeuses, décoratives, peut-être un petit peu superficielles, alors qu'il y a derrière ça un discours politique très clairement féministe, et aussi un discours qui va parler de la couleur de la peau de ces nanas, puisqu'il y a beaucoup de nanas noires, que Nikita Saint-Phalle, qui est une artiste américaine très sensible à la question raciale dans les États-Unis des années 50-60, va très clairement avec ses œuvres poser la question et se servir des nanas pour parler de la cause de la question noire, hein, de la question de ce qu'on appelait à l'époque la race noire aux États-Unis. Elle est un peu la première artiste à s'emparer de ces questions-là. Donc elle le fait un peu avec les moyens du bord, avec un vocabulaire qu'elle doit construire, avec aussi des formes qu'elle construit. Et elle le fait justement beaucoup dans les médias. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est la manière dont elle va utiliser la radio, la télévision de l'époque et d'ailleurs aussi les photographes, les journalistes.
Les nanas représentaient pour moi le symbole de la femme joyeuse, libre, sûre d'elle-même. C'était les nanas au pouvoir, c'était les femmes au pouvoir. Elle représentait le côté féminin en nous tous, dans les hommes, aussi bien que dans les femmes, qui n'a plus de possibilité de vivre aujourd'hui dans notre monde sur-scientifique, où c'est seulement les qualités masculines, les qualités de du cerveau abstrait qui sont admirées aujourd'hui. Et il y a tout le côté humain, tout le côté féminin, intuitif, magique, qui est écrasé.
We hope to make woman power political power. We're trying to show the American woman and the world that women, if organized, can make change.
A society which spends billions of dollars to napalm children in Vietnam is perverted. A society which forces oppressed black men to fight their brothers.
les nanas sont plutôt des guerrières. On peut les admirer et en même temps, elles font peur. On peut dire que les nanas, elles ont quelque chose qui se rapproche de ce que Nikki a été et que l'on pourrait résumer par le terme peut-être d'un excès qui confine à la folie. Alors, on peut dire que c'est la folie des femmes, parce que les femmes, elles ont toujours quelque chose d'excentrique, de trop, elles en font qu'à leur tête, etc. Bon, c'est une certaine vision des femmes qui existe et qui est représentée à travers les nanas. Mais les nanas sont aussi des femmes qu'on ne peut pas maîtriser. Et Nikki a été internée pour raison de problèmes psychiatriques, internée donc dans une clinique. Et je pense qu'il y a quelque chose de ça. Elle a été mal vue dans sa famille. Toute la liberté qui était la sienne, tout ce qu'elle voulait exprimer à travers son art, c'était très mal vu. Sa fille, Laura, m'a raconté que Nikki, au début, lorsqu'elle a fait les tirs et qu'elle allait à l'école, sa mère la conduisait à l'école, certaines personnes ne voulaient pas leur parler parce que c'était honteux. Elle avait aussi beaucoup d'amants, elle avait une vie très libre. Elle disait, les nanas, c'est le nom commun que l'on donne aux filles. Et même aux filles un peu de mauvaise vie. Enfin, on ne dirait pas de Mademoiselle de Saint-Phalle que c'est une nana. D'ailleurs, avant de réaliser les nanas proprement dites, elle a réalisé une femme qui s'appelle Crucifixion, qui est une œuvre qui appartient au Centre Pompidou. Crucifixion ou Leto, c'est à la fois une sorte de Christ-femme et à la fois une prostituée.
Avant, j'avais travaillé avec des jouets. Et sur mes personnages, qui étaient en relief, était collée toute une contradiction de jouets. Par exemple, dans celle qui était la mère, la femme qui accouche, eh bien, il y a des éléments très paisibles et de grande douceur qui sont aliénés avec des autres choses qui sont extrêmement agressives. Alors, il existe toujours cette dualité. Et finalement, un jour, partie la dualité, et sont nées les nanas. Elles se sont débarrassées de leurs jouets d'enfance, elles se sont maquillées, elles se sont grimées, elles sont devenues des bonnes femmes. Et elles ont laissé derrière tous leurs jeux d'enfance. Et à ce moment-là, les gens les ont ressenties comme des sculptures très agressives. Parce qu'elles étaient là, elles dansaient, elles se moquaient, elles étaient joyeuses. Et c'est là où je dis que la joie peut souvent être très subversive.
C'était une démarche très autobiographique. Nikki avait une grande fragilité psychique. Et de cette chose qui aurait pu être une dépendance, elle s'en est servie pour être dans la créativité. Elle a pu transformer un inconvénient en quelque chose de fort et d'universel. Chez elle, l'œuvre est très imprégnée de cette démesure, de cette folie, mais de cette folie concentrée et assumée. Et on le voit bien, du reste, dans ses grands projets en Italie, quand elle fait sa démesure en construisant des territoires, ou avec les nanas, avec Laun à Stockholm, où le public du musée à Stockholm rentrait par le sexe de la femme. C'était quand même extrêmement gonflé, si je puis le dire ainsi. Donc c'est une femme qui ne se censurait pas et qui se servait intuitivement de sa folie comme une sorte de rouleau compresseur. Et c'est ce que je trouvais de magique, parce qu'elle n'était pas théorique, Nikki. Elle ne parlait jamais de l'œuvre du Bauhaus, du constructivisme, de l'art abstrait ou de l'art informel. Elle était dans le déploiement de sa liberté intérieure. Nikki, c'est comme un électron libre, elle arrivait comme ça dans l'espace.
Bloop. Whee!
J'ai fait du cinéma parce que c'était une nécessité. Et c'était, en somme, ça remplit, au lieu de faire une psychanalyse, et après de rentrer chez moi et tranquillement faire du tricot, eh bien j'emmerde des gens en faisant du cinéma. Voilà, voilà la vraie raison. C'était une nécessité. En somme, c'était un bain de rajeunissement de me poser tellement de problèmes, d'avoir tellement de nouvelles choses à faire, d'avoir tellement de problèmes techniques à résoudre que je ne connaissais pas.
Daddy, c'était sa relation à son père dans son enfance. Tout ce que ça représentait. C'est un film complètement corrosif. Elle m'a demandé à un moment de participer à ce film et j'accouchais. C'est Nikki qui m'a couché. C'est vraiment très autobiographique de l'œuvre de Nikki. Hein. Elle ose exprimer des situations qu'on n'aurait même pas avec la psychanalyse. Hein. Donc c'est plutôt un hymne à la liberté et à la folie, carrément.
Blind man, sure you can't see? Turn round three times and try to catch me. Turn east, turn west, catch as you can. Did you think you'd caught me? Blind, blind man?
Daddy, effectivement, c'est le film qui, donc, en 72, raconte un peu l'histoire terrible qui est arrivé à la petite fille. Là, on voit une petite fille évoluer dans un grand parc et cette petite fille, à un moment, est menacée d'être violée par son père. Donc là, les spectateurs sont absolument ahuris. Mais le film continue et dans une seconde partie, on voit apparaître une jeune fille de 15 ans qui est extrêmement belle. Bon, c'est une jeune fille de 20 ans qui joue, qui est totalement dénudée, qui se masturbe devant son père, qui joue le jeu de la séduction devant le père, qui, à ce moment-là, a vieilli et se trouve dans une chaise roulante, est un homme paralysé. Donc, tout d'un coup, on ne sait plus très bien ce qu'on a vu. Est-ce qu'on a vu une petite fille qui a été abusée par son père, ou est-ce qu'il s'agit d'une jeune fille qui est en train de jouer la séduction et de tenter de séduire le père. Nikki joue son propre rôle, elle est l'amante de son amie Clarisse, elles ont donc mal tourné, si on peut dire, sont des filles de mauvaise vie, elles sont devenues des mères maquerelles, elles initient la petite jeune fille à l'homosexualité. Tout ça pour se venger de Daddy. Et le film est en fait très, très drôle. La suite du film, surtout, c'est assez grand guignolesque. Mais les gens n'ont pas forcément compris et se posent la question, est-ce que c'est un film autobiographique ou est-ce que c'est une fiction ?
I see you in the darkness. You are watching me, protecting me. In the darkness, we will be together forever. Daddy, I hate you. But little did I know that by killing you, I'd made you eternal.
Nikki Sanfal were dispersing the homemade plastic bombs he had assembled in his bedroom. And he went from one sculptural element to another, checking and testing.
Everybody clear the area. Clear the area, please.
Everybody clear Tangali the area. And Nikki clear were the last area, to clear the area. But finally, the world began to blow up.
Jean et Nikki, ça c'est le noyau dur. Ça, moi, quand on est là, c'est parce qu'ils étaient là. Chaque fois, l'un se servait de l'autre pour dire, moi j'ai fait ça, qu'est-ce que tu vas faire ? tu dois faire plus fort. Et c'était donc toujours une surenchère excitante de projets et d'utopie ou de réalisation. Donc c'était quelque chose de très dynamique. C'était, ce couple avait ce mérite, non seulement de ne pas être en rivalité, mais de s'apporter chacun de l'amour, certes, mais cette tonicité comme ça, qui est extrêmement rare chez les couples. Ils en ont fait un véritable projet et ils ont fait des pièces ensemble mélangées qui sont des merveilles.
Ils ont réellement collaboré de manière très profonde et en même temps, ils se disputaient beaucoup. Ils étaient sans arrêt en bagarre. Tingley détruisait les choses qu'elle faisait, les maquettes qu'elle faisait, mais ils adoraient ça. Ils adoraient se lancer des challenges, y compris lorsqu'ils n'étaient plus ensemble. Ils ont fait la fontaine Stravinsky, ils ont fait la fontaine de Château-Chinon, et Jean a beaucoup travaillé aussi au jardin des Tarots pour l'aider. Ça, c'est une chose exceptionnelle d'avoir cette relation qui perdure à travers le temps alors que l'on est loin, parce que Jean vivait en Suisse, elle était parfois en Italie, parfois en France, et ils continuaient à travailler ensemble. D'ailleurs, ils s'envoyaient des fax à longueur de journée pour se dire comment il fallait évoluer, comment il fallait faire les choses. Et comme ils étaient mariés, Nikki s'est occupé, lorsque Jean Tingley est mort en 1991, s'est occupé de travailler au musée qui lui a été dédié à Bâle. Et Nikki a fait une donation d'œuvres très importante au musée Tingley pour que ce musée existe.
C'est quand même intelligent, les moteurs. C'est terrible, l'esclavage. Non, c'est une construction sur laquelle nous travaillons en commun. 6, 10, 5, 15 artistes et constructeurs et non artistes. Et on va essayer de faire un mythe dans la forêt. Un objet mythologique qui deviendra avec le temps, qui sera propriétaire de l'imagination des gens. Ce ne sera pas tellement attaché à la personne d'un artiste, ce sera une chose collective. J'aimerais bien atteindre une espèce d'intensité correspondant à nos conflits de l'Occident. Les horreurs de l'Occident, aux joies de l'Occident, à la folie de l'Occident, à la 36 000 façons d'être plus ou moins déséquilibrés que nous avons mis au point.
Le Cyclope, c'est une énorme construction délirante, tout à fait hors des normes architecturales, qui pouvaient du reste se casser la figure parce que tout était. Et puis c'était même presque le but que ça soit dangereux à la limite. En même temps, Jean n'était pas suicidaire, il était pour vous amener au bord du gouffre. Mais il n'était pas. C'était quelqu'un d'absolument positif, il n'était pas là pour qu'il y ait un accident, ce n'était pas son projet. Comme il savait construire des choses très, très conséquentes, il a monté presque au jour le jour avec ses équipes. On va appeler ça une sculpture encore. C'était un assemblage de ferraille. Et il voulait que, comme on était un groupe soudé et un groupe avec lequel on avait une confiance absolue, que dans le fond, on concourt à ce projet. Lui, en fait, était la colonne vertébrale. Et les personnes qu'il aimait, n'ayons pas peur du terme, il les a associés à son projet en disant « Je veux que vous soyez avec moi ». Ça voulait dire « Je ne fais pas une œuvre tout seul ». Je crois que l'œuvre doit faire 23 mètres ou quelque chose comme ça. Et il y a un hommage à Klein aussi, en haut, avec un plan d'eau qui est sur la cime des arbres. Alors Nikki, bien sûr, Nikki vivait avec Jean, c'était sa femme, c'était sa reine, donc je pense qu'ils en parlaient tout le temps et c'était passionnel. Donc Nikki je pense qu'elle a vraiment, elle s'est fait plaisir au bon sens du terme. Il avait la chance, Jean et Nikki avaient un charisme formidable et ils étaient entourés de personnes qu'ils faisaient rêver. Et dans ces personnes qui les faisaient rêver, il y avait des gens qui étaient très, très humbles, qui étaient des étudiants ou n'importe qui, mais il y avait aussi des gens extrêmement riches. Ça pouvait être les Rothschild, ça pouvait être Michel de Grasse et sa femme, enfin, des gens très sophistiqués qui, dans le fond, aimaient leur compagnie et appréciaient leur travail, et qui collectionnaient leurs œuvres aussi. Et donc, ce qui fait que Dominique de Ménil, qui était quand même cette formidable mécène, qui pour moi était aussi considérable, qui était aux États-Unis, au Texas, a pris en charge, je crois, l'achat de cette zone, de cette parcelle dans la forêt. Il a fallu certainement même beaucoup négocier, je pense, parce que c'était inconstructible et tout ça. On avançait en sauvage, comme ça, en barbare. Et donc, cette zone était devenue vraiment, effectivement, la tanière de Jean Héniquet.
Pour moi, mes sculptures représentent le monde de la femme. Amplifiée, la folie des grandeurs des femmes, la femme dans le monde d'aujourd'hui, la femme au pouvoir. Et en face de mes sculptures, il y aura les machines agressives, menaçantes, de Tinguely qui représentent le monde de l'homme. Ça représente aussi la nuit contre le jour, ça représente les éléments mythologiques, les rêves, les aspirations de l'homme contre les machines agressives. En même temps, c'est une collaboration que je trouve va très loin pour nous deux. C'est une rencontre dans laquelle la collectivité pourra retrouver ses propres rêves.
À la fin de l'année 1978, Nikita Saint-Phal met en œuvre la réalisation du Jardin des Tarots à Garavizio, en Toscane.
En 1955, elle vivait avec son mari en Espagne, et elle a visité à Barcelone le parc Güell de Gaudí, et elle a été absolument émerveillée, et elle a dit qu'elle allait faire elle aussi un jardin de ce type dans sa vie. Ensuite, elle est allée dans la Drôme visiter le palais idéal du facteur Cheval, et elle s'est rendue compte que l'on pouvait effectivement faire par soi-même, seul, un jardin, des architectures. Cette dimension architecturale était très importante pour elle. Elle a fait des nanas habitables dans lesquelles on pénétrait, notamment cette œuvre éphémère qui s'est appelée On, elle en suédois, dans laquelle on pénétrait par le vagin, et qui était une œuvre présentée en Suède au Moderna Museet. Et donc c'était ça, son idée, c'était de faire un parc dans lequel il y aurait des maisons, des architectures, et certaines des maquettes, notamment la maquette de ce qu'on a appelé l'impératrice, elle en a fait la maquette très très tôt. Et elle l'a agrandie à une dizaine de mètres, alors que c'était une petite maquette de 5 cm de hauteur.
Ce qui me surprend quand j'arrive au Jardin des Tarots, c'est d'abord l'ampleur des œuvres, l'envergure du projet.
Jean-Gabriel Mitterrand.
Qui occupe les 4 hectares et qui est extrêmement complexe. La répartition des sculptures sur le terrain, la circulation qu'elle a très très bien imaginée. La complexité de chaque œuvre, qui est très riche en symboles. Il y a une symbolique extrêmement puissante. Et le jeu aussi, parce que tout ça, c'est amusant aussi, évidemment. Mais la dimension un peu sacrée du lieu était incroyablement préservée. Chaque sculpture était une, à la fois une œuvre d'art et une œuvre de méditation. Et ça, avec l'éclat des couleurs, le travail incroyable de... elle disait « je suis une dentelière ». Je travaille comme une dentelière. Elle faisait des petites mosaïques minuscules qui étaient cuites dans le four à côté, qu'elle avait construit. Et donc c'était un travail, mais infini.
Son travail de sculpteur monumental, c'était évidemment un emploi du temps fou, parce qu'il fallait diriger le chantier, il fallait organiser des équipes. Il y a à la fois la partie, on va dire, gros œuvres, maçonnerie, soudure des éléments métalliques, couler ensuite le béton là-dedans. et ensuite recouvrir ces sculptures donc très, très grandes de matériaux qui sont des matériaux là pour le coup extrêmement précieux et quelquefois difficiles à fabriquer. Tous ces éléments céramiques étaient faits sur place dans des fours. Elle les faisait cuire, elle les peignait, elle les refaisait cuire. Ensuite, elle les découpait, elle les posait. Il y avait aussi des éléments en verre ou des éléments un peu métalliques. Donc c'est un travail de détail absolument fou, qui est évidemment très très long à faire, qui se faisait pour l'essentiel, évidemment, dans la nature, donc avec les événements météorologiques, qu'il fasse beau, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid. Voilà, elle travaillait tous les jours avec une équipe d'ouvriers sur place, qui étaient un peu des amis. Donc on la voit, elle appelait ça d'ailleurs sa famille. Hein, c'était une équipe de gens avec qui elle vivait littéralement du matin jusqu'au soir. Elle faisait aussi la cuisine. Il y avait des espèces de réunions de chantier un peu improvisées dans la sculpture L'Impératrice, qui était donc une des pièces principales dans laquelle elle avait installé sa maison. Il y avait la cuisine dans un sein, la salle de bain dans l'autre, la chambre et puis le salon dans le corps principal.
Niki m'a invité plusieurs fois à coucher dans l'Impératrice. Et dans sa poitrine, il y avait une chambre et en dessous, il y avait une salle de bain. Et voilà, c'était très agréable, c'était très bien. Sauf que les sculptures de Tinguely grinçaient toute la nuit. J'avais l'impression de voir des fantômes passer dans le jardin. Je n'arrivais pas à dormir. Il y avait une présence incroyable des sculptures de Jean. Niki avait son studio, donc elle était de certaine façon plus protégée. Alors finalement, j'ai demandé à Niki de coucher dans la maison des Caracciolo, qui m'accueillait très gentiment et où j'avais un confort grand bourgeois qui m'allait très bien.
C'est l'œuvre de ma vie. J'ai passé 12 ans à la construire. Jean Tinguely l'appelle le calvaire, parce que j'ai vraiment souffert pour le faire. Souffert sur beaucoup de plans, c'est-à-dire que j'étais très isolée, j'étais loin de mes amis, j'avais l'arthrite rhumatoïde, alors je marchais avec un bâton, j'étais plein de drogue pour pouvoir tenir le coup, c'était très difficile, il y avait des problèmes d'argent, j'ai financé le truc moi-même. Les dernières années, tout le monde dans l'art a gagné beaucoup d'argent, alors j'ai pu accélérer, mais à ce moment-là, il y avait des moments où je ne savais pas si j'avais 3 mois devant moi pour payer les ouvriers, c'était très dur. Mais j'étais portée par cette foi que je devais faire ce jardin. Et ça a été une grande aventure de vivre un peu comme la cathédrale, avec tous les péripéties d'un chantier, les complications, une nouvelle culture, une nouvelle langue à apprendre. C'est très mélangé en matériaux, parce que à la fois c'est un hommage à Gaudi, mais en même temps, les matériaux sont complètement divers. Il y a beaucoup de miroirs, donc beaucoup de réflexions. Et c'est une promenade à travers ces 22 cartes. Elles ont une philosophie. Et elles ont beaucoup de mystère autour d'elles.
La conception, l'idée est née d'une période où elle allait mal, toujours les poumons. Et elle était à Saint-Moritz, chez Marella Agnelli, et elle a fait part à Marella de son désir de faire un parc de sculptures. À ce moment-là, Marella Agnelli lui a parlé de ses deux frères, Nicolas et Carlo Caracciolo, qui avaient, avec elle-même d'ailleurs, hérité d'une ferme magnifique en Toscane, dans le sud de la Toscane, avec un très grand territoire. Et elle a rencontré les frères et tout de suite ils ont accepté de lui céder 4 hectares à peu près, qu'elle a intégré dans son projet. Je vous passe tous les problèmes juridiques parce que c'était pas si simple. C'était quand même une grande entreprise. Il y avait une cabale contre elle, menée par Souni, d'ailleurs Agnelli, la sœur d'Agnelli elle-même, qui était à ce moment-là députée, je crois, maire de Santo Stefano, d'une ville balnéaire tout à fait à côté, et une femme de caractère, qui est devenue ministre des Affaires étrangères ensuite, d'ailleurs, et qui avait un pouvoir énorme et qui a détesté l'œuvre de Niki et qui trouvait que ça défigurait la Toscane. Donc elle a eu des oppositions importantes et elle a dû se battre pour corriger l'image qu'elle pouvait donner. Parce qu'évidemment, c'est une œuvre assez brutale, très colorée. Et en Toscane, c'est vrai que ça fait une sorte de formidable rupture avec le paysage.
Le 4 novembre 1972 a lieu l'inauguration du Golem dans un jardin de Jérusalem. C'est la première architecture pour enfants réalisée par Nikit Zinfal.
Je suis très content quand je peux faire quelque chose pour les gens, quand je peux apporter un peu de bonheur, un peu de joie, que ce soit un enfant, que ce soit quelqu'un. Je suis contente que mon œuvre est populaire. Je ne dirais pas, Pandou, ce n'est pas une œuvre intellectuelle. Les gens peuvent le regarder, ils n'ont pas besoin de connaître l'art.
C'est populaire, oui. Et je crois que, par exemple, ce que tu as fait à Jérusalem, ton grand golem, là, est peut-être un monument parmi les plus populaires qui existent. Enfin, c'est fréquenté d'une façon incroyable. J'ai eu moi-même l'occasion de constater qu'il y a donc des centaines de gosses qui utilisent cette sculpture à chaque instant.
C'était une commande de l'État d'Israël pour faire un jardin d'enfants et j'ai fait un monstre avec trois langues qui crache les gosses. Et je suis très fière de cette chose parce que personne ne connaît Nikit Zinfal en Jérusalem, mais ils connaissent tous. Moi, je l'avais appelé le golem, mais ils l'appellent tous le monstre. Et au fait, c'est l'œuvre elle-même qui est connue et ce n'est pas l'artiste. Et pour moi, ça c'était un triomphe. J'étais très contente.
Nikki a voulu aller vers le public, a voulu cette popularité. Et c'est pour ça qu'elle était très heureuse de faire des œuvres dans l'espace public et non pas uniquement des œuvres pour les musées et pour les galeries. Elle était très heureuse de faire ces trois nanas qu'elle a construites pour Hanovre. Elle était très heureuse de faire une sorte de toboggan monstre immense pour un jardin à Jérusalem, de faire la fontaine Stravinsky. Elle disait « Abba, l'art pour le salon ». Et puis, à la fin de sa vie, elle a fait une donation au musée de Hanovre et au musée de Nice pour que les œuvres soient dans les musées visibles par le public et non pas distribuées, vendues comme uniquement pour les collectionneurs privés. Elle s'appuyait sur des contes, elle s'appuyait sur des légendes, elle s'appuyait sur des choses que les gens connaissaient. Le fait que, par exemple, elle mettait en scène un serpent, tout le monde comprend ce que c'est que le serpent. Lorsqu'elle met en scène un dinosaure, on comprend bien que c'est un monstre qui a un rapport avec l'enfance. L'oiseau, c'est le, peut-être l'animal auquel les enfants s'identifient en premier et représentent la liberté. On le comprend immédiatement. Donc tous ces symboles qu'elle a utilisés sont des symboles qui appartiennent à tout le monde. Et donc je crois que c'est pour ça qu'elle a été comprise.
Boulez voulait avoir quelque chose sur l'IRCA, mais il a dit à Mme Pompidou, je suis triste, je vais là le matin, je ne vois rien, je voudrais voir, j'ai vu une très belle fontaine de Jean Tinguely à Bâle, je voudrais la voir ici. Alors Claude Pompidou a parlé à Chirac, ils sont allés voir Jean, après ils ont parlé à Mitterrand, tout le monde s'est mis d'accord. Et puis Jean est venu voir la place et a dit non, je ne vais pas le faire parce que j'ai besoin de couleurs. Autrement, je fais avec Nikki. Mais là, tout seul, avec le noir, sur cette place, non. Alors, ils ont dit d'accord, alors faites-le avec Nikki. Alors, dans ce cas-là, il m'a demandé, il a dit commence. Notre thème était Stravinsky, il a dit commence. Alors, moi, j'ai fait, écoute, je vais te préparer des choses, tu viendras faire ton shopping. Qu'est-ce qui t'inspire, tu trouveras. Alors, j'ai commencé par le chapeau. J'ai dit, tiens, un chapeau qui tourne. Et après, j'ai commencé par ceci, cela. J'en ai fait peut-être une trentaine de choses et Jean a choisi les celles qui l'amusaient le plus.
Ça a fonctionné tout de suite, c'était un événement vraiment important. C'est à ce moment-là que François Mitterrand, d'ailleurs, stimulé par la fontaine Stravinsky à Paris, a eu le désir de demander à Tinguely et à Nikit Zinfal de leur commander une fontaine pour Château Chinon.
En 1994, dans son livre « Traces », Nikki de Zinfal révèle qu'elle a été violée par son père à l'âge de 11 ans.
Elle nous échappait tout le temps. Elle avait son cheminement de pensée. Alors un jour, elle veut faire le jardin des tarots parce qu'elle a une aspiration spirituelle. Et puis, en vieillissant, sans doute, il y a ce retour en arrière sur l'histoire de sa famille et son histoire personnelle, évidemment. Et donc, Trace, elle essaye de comprendre les racines de sa souffrance. Et elle veut raconter l'histoire de sa jeunesse et l'histoire de la famille et l'histoire des agressions de son père et de la façon dont sa mère l'a un peu lâchée, en fait, à ce moment-là. Elle revient sur tout ça, les parents sont plus là. Et moi, j'ai été bouleversé parce que je ne connaissais pas. Il y avait eu Daddy, on savait qu'il y avait un problème avec son père, mais bon, c'était un peu de l'imagination, c'était un film, c'était peut-être une autobiographie, mais c'était romancé. Tandis que dans le livre, tout d'un coup, elle veut raconter la vérité. Et chez Nikki, il y avait une part incroyablement imaginative, c'est une très grande artiste, elle avait donc faisait un travail intellectuel et de mémoire, mais elle y ajoutait aussi, enfin, elle avait aussi son monde à elle qu'elle s'était construit depuis toutes ces années. Et donc, moi, j'avais toujours l'impression qu'elle était entre l'imaginaire et la vérité. Je ne savais pas très bien comment on pouvait départager les choses. Et je trouvais que c'était très bien, d'ailleurs, que l'imaginaire soit mêlé à la vérité, parce que la vie, c'est comme ça. Chacun ressent de manière différente les événements. Mais peu à peu, je me suis aperçu qu'elle avait quand même dit une vérité très violente. C'est sous une forme de confession écrite à la main. Et c'était très, très émouvant de voir ce manuscrit écrit avec peine, mais parfaitement limpide comme écriture. Une pensée d'une fraîcheur incroyable, parce qu'elle était toute une fraîcheur et d'une spontanéité extraordinaire, Nikki. Il y avait des prises de conscience qui venaient avec la maturité, mais on n'avait pas le sentiment d'être avec une femme mûre. Vous voyez, pas du tout, c'était une jeune fille.
And that is why I always loved to play blind man, Daddy. I was so proud whenever you asked to see you on your knee.
Alors je ris à peu près 20 minutes par jour et ça m'a énormément aidé à combattre la maladie. J'avais un emphysème qui était venu d'avoir trop travaillé avec le polyester et j'étais sous les antibiotiques tous les mois. Et je faisais de la physiothérapie, il fallait me mettre les pieds par terre, il fallait faire tellement de choses pour rester en vie. C'était très compliqué. Et puis un jour, j'ai lu que quelqu'un s'était soigné comme ça. Et ça m'avait très, très frappée. Et alors, j'ai commencé à essayer cette thérapie. Et puis, ça marchait fantastiquement. Je suis sûre, en plus, si je riais encore une demi-heure de plus, que je me guérirais de mon autre maladie aussi. Parce que c'est fantastique ce que ça fait pour l'âme. C'est le meilleur antidépressant. Ça vous met dans une forme, c'est énergisant.
Je crois que tous ces adjectifs conviennent parfaitement. Femme artiste, forte, très 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 engagée par rapport à la lutte contre le sida. Elle est une des premières à comprendre que l'épidémie va être terrible. Et donc à s'engager dans cette lutte. Elle est une femme qui est engagée dans la lutte contre la ségrégation raciale très tôt. Tout de suite, elle fait des œuvres avec des nanas noires. Elle fait un hommage à Rosa Parks. Et plus tard dans sa vie, elle fera aussi des hommages à des noirs qui ont compté dans le domaine du jazz, dans le domaine de la musique. Elle avait horreur des groupes. Elle était une individualiste farouche. Et ce côté scout des mouvements féministes la rebutait. Et ce qui est amusant, c'est que, en fait, cette façon d'être féministe est extrêmement contemporaine. Et on est féministe tout en disant qu'on veut bien préparer le thé et qu'on veut bien aller chez le coiffeur et porter des chapeaux. C'est ça qui est amusant. En fait, elle était féministe comme les femmes le seront 30 ans plus tard.
Kate Millett, Agnès Varda, Jane Fonda, ils m'ont demandé de joindre le mouvement. Et j'ai beaucoup réfléchi. Et je me suis dit, pourquoi je le joindrais maintenant ? Je me sens, à ma manière que j'ai fait, que toutes mes choses monumentales, dans un certain sens, sont aussi pour prouver qu'une femme peut travailler à cette dimension et que je n'ai pas envie de me joindre à un mouvement, quoi qu'il soit. Je peux avoir mes préférences, ça ne veut pas dire que je ne suis pas pour le mouvement féministe quand il a apporté beaucoup de choses. Après, comme tous les mouvements, les choses... Et puis le féminisme a existé depuis toujours, il n'est pas seulement né dans les années 60, il a existé depuis le temps éternel, et il y a des moments où il est plus passif, il y a des moments où il revient, c'est comme une musique, un refrain. Maintenant, on a gagné certaines victoires, alors on n'en parle plus pour le moment, mais ça va revenir plus tard. Parce qu'il y aura d'autres victoires à gagner.
She looked around to make sure the monster wasn't looking and jumped down into his arms. He took her under his most beautiful tree and he made love to her.
Quand elle est décédée, elle n'avait pas terminé le parc de sculptures qu'elle était en train de faire aux États-Unis, Queen Califia Magic Circle. Elle n'avait pas tout à fait non plus terminé sa série sur les héros noirs, justement, qu'elle avait commencé à faire. Elle était dans une période d'écriture, en fait. Elle a énormément écrit à la fin de sa vie, beaucoup de matériel qui n'a pas été publié. Et je pense qu'il y a une vraie redécouverte, là aussi, de ses écrits à faire.
He looked at her in a very strange way.
La personne psychiquement fragile du début jusqu'à la fin, c'est la même personne. On sent qu'elle est sur un fil et qu'elle exprime dans le milieu de l'art, dans le fond, la fragilité humaine, son talent. C'est quand même ça qui est formidable, c'est que son talent est au rendez-vous et c'est la rencontre du talent et de cette folie qui est la véritable clé de son œuvre. Et là, bien sûr, il y a des époques différentes, mais que les tirs soient au début, c'est important parce que ça montre aussi que c'était un geste historique, un geste de jeunesse comme ça. Mais en dehors de ça, après, c'est la femme qui traverse les âges et qui s'exprime et qui rebondit, qui rêve, qui fait des cauchemars, tout ça se suit et il n'y a pas de début. Il y a peut-être un début, mais il n'y a pas de fin en tous les cas.
Saint-Phal, 1930-2002, une émission de Dominique Missika, avec Jean-Pierre Reynaud, Catherine Framblin, Camille Morino, Jean-Gabriel Mitterrand. Documentation INA, Amélie Briand-Lejeune, prise de son Stéphane Poitvin et Benjamin Thuot. Mixage Benjamin Vignal. Réalisation Ghislaine David.
C'était Une vie, une œuvre, une émission coordonnée par Martin Kénéen, avec la complicité de Claire Poinsignon, et consacrée aujourd'hui à Niki de Saint-Phal. Commentaires, réécoutes, podcasts et compléments sur la page de l'émission sur franceculture.fr. La semaine prochaine, pour célébrer ensemble les 30 ans d'une vie, une œuvre, je vous donne rendez-vous au Panthéon, vendredi 3 octobre, à partir de 10h30, pour l'enregistrement en public de deux émissions spéciales dédiées à André Malraux et à la mulâtresse Solitude, deux figures héroïques, à la fois historiques et légendaires, qui hanteront désormais la collection idéale d'une vie, une œuvre, dont quelques-uns des plus beaux rendez-vous sont désormais réunis dans le livre coordonné par Mathieu Garrigou-Lagrange, Destins inoubliables, une coédition Albin Michel et France Culture.